Radio Prague, les informations.
Pas de démission du Premier ministre sortant. Début solennel du rassemblement des Sokol dans la capitale tchèque. À peine entré en vigueur, le nouveau code de la route est contesté aussi bien par le Premier ministre que par le vainqueur des législatives. Le Premier ministre Jiří Paroubek a déclaré à la télévision tchèque qu'il ne présenterait pas sa démission comme annoncé lundi. Il réagit ainsi à la décision du président de la République, Václav Klaus, de ne pas accepter cette démission en raison de la situation bloquée à la Chambre des députés. Elle n'a pas réussi en effet à terminer sa réunion constituante et à élire son président. D'un autre côté, le président des Verts, Martin Bursík, a appelé le Premier ministre sortant à une réunion séparée. Il voudrait savoir si une volonté réelle de discussion existe pour que le gouvernement de coalition de son parti, avec le Parti civique démocrate et les chrétiens démocrates, puisse exister, ou bien si toutes les négociations ne sont qu'un simple jeu politique pour amplifier la crise politique. Les drapeaux des Sokol ont flotté dans le centre de Prague ce dimanche, lors du défilé organisé à l'occasion du 15e rassemblement des Sokol. Le défilé a vu la participation de plus de 20 000 Sokol qui participeront à ce rassemblement, gymnique, jusqu'au 6 juillet. La manifestation s'est terminée place de la Vieille Ville, au pied de la statue de Jan Hus, le grand réformateur tchèque. Le nouveau code de la route qui vient d'entrer en vigueur le 1er juillet devrait subir d'importantes modifications car il est trop sévère. Une déclaration du Premier ministre Jiří Paroubek à la télévision tchèque. Une amnistie devrait être déclarée pour les automobilistes pour un certain temps. Le vainqueur des législatives, le Parti civique démocrate, ne cache pas que le code sera aboli, mais il préconise une période d'essai d'un an. Selon le directeur du bureau de l'énergétique écologique du ministère de l'Industrie et du Commerce, Ladislav Pazdiara, la République tchèque ne pourra tenir ses engagements envers l'Union européenne en ce qui concerne les sources d'énergie alternatives. Au lieu des 8%, elle atteindra seulement les 6%. Pas de sanctions en vue pourtant de la part de l'Union européenne. Après Luc Besson, réalisateur français qui devait présenter son nouveau film au Festival international du film de Carlo Vivari, c'est aussi le réalisateur brésilien Andrew Waddington qui ne viendra pas. La raison, la défaite du Brésil au championnat du monde de football en Allemagne face à la France. Jacqueline Bisset ne viendra pas non plus pour des raisons de travail. Le Tchèque Tomáš Hindruk a remporté la médaille de bronze au championnat d'Europe de canoë à l'Argentière la BC en France. Avant le championnat du monde, dans un mois sur le canal de Troya, à Prague, les autres Tchèques n'ont pas eu de succès. La météo pour terminer nous annonce du beau temps et des températures tout juste autour des 30 degrés pour les journées à venir. Pas de pluie, mais des orages locaux. Bonne fête au Radomir le 3 juillet. C'était les informations avec Alain Slivinski. Bonne écoute et bonne réception et passez des moments agréables aussi en compagnie de Radio Prague, émission langue française. Ah !
Culture sans frontières.
Figure de proue du groupe strasbourgeois Catonoma, Rodolphe Burger fait depuis quelques années cavalier seul et collabore de multiples façons et avec de multiples artistes comme Alain Bachung, le poète, écrivain et traducteur Olivier Cadio ou encore avec la chanteuse Françoise Hardy. Souvent taxé de rock intello, avec tout ce que cette étiquette charrie de mépris vaguement admiratif et d'hommage à reculons, les compositions de Rodolphe Burger et autrefois de Catonoma ont le mérite d'avoir posé les jalons d'une musique qui ne fait pas de compromis, une musique qui refuse la soupe commerciale et qui avec le temps s'est creusée une place de respect. Le genre de type a mené sa barque, galère comprise, jusqu'à créer son propre label, Dernière Bande, et a quitté le précaire statut d'intermittent du spectacle, tout en défendant aujourd'hui ce pis-aller en danger qui n'en reste pas moins un des moins mauvais d'Europe pour les artistes. Il était l'invité phare de la fête de la musique à Prague le 21 juin dernier, l'occasion d'évoquer avec lui, pour qui c'était son premier voyage dans la cité Vltavine, les liens qui le relient pourtant au pays tchèque depuis bien plus longtemps.
Impossible de ne pas en parler puisque nous sommes au pays de Schweik, c'est que vous avez travaillé en fait sur l'adaptation faite par Bertolt Brecht du roman de Jaroslav Hašek, qu'il a adapté au théâtre, et Jean-Louis Martinelli au théâtre des Amandiers l'an dernier l'a adapté à Nanterre. Voilà, enfin la mise en scène à Nanterre. Et vous, vous êtes occupé en fait de la musique, c'est bien cela?
Exactement. Ouais. Il existe bien sûr une musique
très belle de Heinz Reisler. Et il m'a demandé de réarranger, réadapter la musique d'Eisler. Donc là, ça a été une véritable plongée à la fois dans la musique de Eisler et dans cette pièce très très intéressante de Brecht, qui réactive cette figure du Schweck, du soldat Schweck, qui apparemment est inscrite très profondément ici dans la mémoire populaire tchèque. Alors effectivement, ça, je dois dire, ayant travaillé là-dessus, arrivant ici, je revois des scènes, des mentions précises, concrètes de ce qu'on y mange dans la fameuse auberge de Madame Kovechka. Mais je dirais musicalement aussi, il y a des références évidemment. Eisler s'est inspiré de la musique traditionnelle de Bohème, d'air populaire. Même la chanson la plus connue qui a fait un véritable tube en Allemagne de l'Est, qui est la chanson de Lied von der Moldau. Au fond de la Moldau croulent les pierres.
Am Grunde der Moldau wandern die Steine. Es liegen drei Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag.
Comment est-ce que vous avez travaillé, vous, alors, sur l'adaptation musicale avec Martinelli?
Je suis resté assez fidèle, en fait, à Eisler. Je trouve que ça aurait été un peu déplacé de le moderniser d'une manière artificielle, donc j'ai pas fait de la techno. J'ai fait très simplement une application littérale de ce qui était les principes communs de Eisler et Brecht. L'orchestre est sur scène, il est dans l'auberge, les acteurs chantent, donc il fallait quelque chose, un dispositif praticable. J'ai travaillé avec les acteurs, pour certains ils n'avaient jamais chanté. L'acteur Bakri, Pierre Bakri, n'avait jamais chanté. En fait, il chante très bien, il a une très belle voix. L'originalité principale, c'est qu'on a l'habitude d'entendre cette musique-là jouée très pianistique. Eisler était pianiste, donc beaucoup de choses. Très piano, très cabaret. Et j'ai donné un son à ça, plus guitare.
Plus rock ?
Pas rock vraiment, mais évidemment un peu plus quand même. Donc comme s'il s'agissait d'un orchestre, mais d'un orchestre avec une autre instrumentation, un autre son, un autre tempo un peu. Et puis il y avait tout un travail, était plus compliqué sur les parties. Dans la pièce, il y a toute une musique écrite par Eisler qui concerne des scènes qui met en scène des nazis. Et là, c'est très, très très difficile parce qu'on ne sait pas quoi penser de la musique d'Eisler, qui est une musique qui parodie la musique de Schoenberg et de Wagner. C'est une espèce de critique de la grande musique allemande. C'est une musique très difficile à chanter, là, très difficile à adapter aussi. Donc là, j'ai travaillé plus à partir d'échantillonnages, de samples. J'ai déformé, anamorphosé des éléments de Wagner.
Parmi vos références, il y a le Velvet Underground, Lou Reed, qui ont notamment, par exemple, ici, eu une très grande importance sur la dissidence tchèque, notamment sur les groupes dissidents, enfin, qui se sont retrouvés, en fait, justement, dissidents, non pas parce qu'ils voulaient être dissidents politiques, mais parce qu'ils faisaient de la musique qui ne plaisait pas au régime. Quel est, en fait, ce rôle d'inspiration pour vous? En quoi vous êtes-il inspiré? Et quel est, selon vous, son héritage aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un héritage?
C'est certain que, immédiatement, quand on m'a proposé de venir à Prague, j'ai pensé au Velvet. Et je me suis dit, l'hommage au Velvet que je fais de temps en temps de manière incidente, j'ai fait des reprises du Velvet, puis c'est très évident, je dirais que un peu moins maintenant dans ce que je fais, mais dans les débuts en tout cas de mon groupe Katonoma, on a souligné l'influence du Velvet qui était évidente. C'est un groupe qui a énormément compté, pour beaucoup, mais je dirais sans le Velvet, je n'aurais pas fait de musique. L'hommage au Velvet, en réalité, je ne l'ai jamais fait, vraiment ou développé, surtout parce que c'est un peu devenu une référence, je dirais, pas embarrassante, mais tellement galvaudée que c'est un peu délicat. Alors je trouve que le bon endroit pour faire un hommage, c'est ici. Et c'est ici que j'ai envie de le faire, parce que c'est tout à fait extraordinaire l'histoire du Velvet et de Prague, et de Havel et de Lou Reed. J'ai relu avant de venir l'interview célèbre entre Havel et Lou Reed, puis même à l'époque, enfin au moment de la révolution de velours, cette histoire m'avait absolument passionné, je trouve ça extraordinaire, quoi. Et je dirais presque que la dissidence paraguaise est fait cadeau au Velvet, en un sens, d'une dimension qui n'était pas du tout dans le Velvet. Le Velvet n'était absolument pas un groupe politique, politisé. Donc. Mais que ça ait eu ce sens ici, que ça ait pris cette dimension, cette valeur, je crois que enfin, c'est tout à fait extraordinaire. En plus, ça a des résonances multiples. En même temps, c'est fortuit. C'est-à-dire, bon, voilà, Václav Havel est allé à New York dans les fins des années 60. Il ramène un disque du Velvet qui circule. Tout ça, c'est aussi des hasards. Mais il y a le fait, je sais pas, Andy Warhol était, je crois, pas tchèque, mais slovaque d'origine. Je sais pas. Le mot même underground, le mot révolution de velours, Velvet. Enfin, il y a quelque chose qui, tout d'un coup, devient absolument à la fois surréaliste et très, très, mais plein de sens. Je sais pas, je pourrais dire aussi que, en arrivant ici, j'ai immédiatement trouvé à l'Institut français un ami qui s'appelle Jerry Smetana, qui est pragois et qui vit à Prague et que j'ai connu à Paris. Il vivait à Paris dans les années 80 et qui est la première personne qui m'a programmé dans le célèbre club Le Gibus. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était à la Fondation Cartier à Paris, au moment où le Velvet s'est reformé. Il accompagnait les musiciens tchèques qui Lou Reed avait invité. Il m'a raconté la vraie histoire de ça, qui est que en réalité Lou Reed ne les avait pas invités. Après, le manager avait mal compris, il parlait pas anglais. C'est une histoire géniale. Ah bon, on est dans des histoires de boucles comme ça. Dear mother, the church is cold, but the alehouse is healthy and warm. Besides, I can tell where I'm used well. Such usage in heaven will never do well.
Et où en est l'aventure Catonoma? Alors, est-ce que vous pensez que, parce que pour l'instant, d'après ce que j'ai compris, c'est solo, que vous pensez rejouer ensemble un jour ou...
Le groupe a décidé de s'arrêter, hein, et de finir, je dirais, en beauté. C'est-à-dire, bon, le dernier album du groupe et sa dernière tournée était vraiment magnifique. Bon, ensuite, bon, voilà, ça a été évidemment un débat entre nous, on continue pas. Tout le groupe n'était pas forcément d'accord et dans l'envie d'avoir ce fonctionnement-là. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis un peu le seul dans le groupe à avoir choisi très tôt de ne faire que de la musique. Et donc, ça a creusé quand même un écart, je dirais, dans les réalités de vie entre nous. Et j'ai développé beaucoup de choses par désir, en dehors du groupe, par envie, mais aussi par nécessité. Et donc, le groupe était devenu quelque chose, pour moi, de très fondamental, mais pas unique. Et pour les autres, c'était un peu l'inverse. À un moment donné, c'est difficile de rendre tout ça compatible. On a quand même duré 20 ans, ce qui est énorme pour un groupe. Et j'exclus pas du tout. J'espère évidemment qu'on va se reformer un jour, rejouer ensemble.
Quand vous avez commencé dans les années 80, forcément, c'est pour ça que vous aviez sans doute l'étiquette underground aussi. Il n'y avait pas vraiment de public réceptif à ce type de musique. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça a un peu changé quand même? Qu'il y a, une envie du public, en France en tout cas, pour des musiques qui ne sont pas formatées, pour des textes qui font sens, qui sont poétiques, qui ont un fond.
Là oui, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est vrai que on avait le sentiment, quand on a démarré dans les années 80, on se sentait très très isolé en France. Donc on trouvait plutôt notre famille esthétique, musicale ailleurs. En France, on se sentait terriblement isolé. Et c'est plus du tout le cas, je dirais. Enfin alors, je ne sais pas s'il faut dire qu'on a été précurseurs, ça peut être, c'est pas à nous de le dire, mais en tous les cas, c'est certain que je me sens, moi, personnellement, beaucoup plus à l'aise aujourd'hui. Je trouve que... indépendamment de la, alors par contre de d'autres choses qui est la crise de, disons alors du système de distribution de, bon, sur lequel il y aurait beaucoup à dire, je dirais, mais dans la, à la fois du côté des musiciens et du côté du public réel, ceux qui vont au concert, ceux qui il y a infiniment plus de d'ouverture, de, enfin, je trouve qu'on est dans une époque beaucoup plus intéressante musicalement que dans les années 80.
Alors, j'avais lu une interview de vous, ça a rien à voir, c'était à propos de la sonorisation du tramway de Strasbourg. Et vous parliez du son, en fait, de Strasbourg, ça m'avait intéressé. Est-ce que vous pourriez définir le son de Prague, par exemple?
Pas encore. C'est-à-dire, je suis plutôt frappé du fait que je n'ai pas entendu. On s'attendrait à avoir des sons de cloches de partout, vu le nombre de clochers, d'églises, et on n'en entend pas. C'est plutôt ça qui me surprend, pour le moment. Mais je ne sais pas, peut-être qu'il y a un moment où ça va se déclencher, d'accord.
Oh,
La première rubrique culturelle de ce mois de juillet vous a été présentée par Anna Kubishta. Merci à toute l'équipe de production pour la mise en onde. À bientôt.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc. Alain Slivinsky.
Cette semaine, dans notre rubrique touristique, nous allons faire un tour en Moravie, dans la région qui se trouve entre Zlin, l'ancienne ville de la chaussure, et Hodonin, une petite ville de Moravie du Sud, située près de la frontière avec l'Autriche et la Slovaquie. Où vais-je donc vous emmener? Sur le canal Batia, qui est devenu une attraction touristique assez recherchée après son réaménagement. Le canal Batia a été construit dans les années 30 du siècle dernier et, comme son nom l'indique, par Tomáš Batia, le célèbre fabricant de chaussures tchèques qui est d'ailleurs connu dans le monde entier. Comme ses usines étaient à Zlín, en Moravie du Nord, il cherchait un moyen bon marché de transporter ses produits vers le sud, en premier lieu vers Bratislava et Vienne. Le cours de la rivière Morava s'y prêtant, il décida de construire un canal qui relierait la ville de Zlín à Hodonín. Les mariniers pouvaient ensuite continuer par la Morava et rejoindre le Danube. Le rêve était de relier l'Elbe, l'Oder et le Danube, par l'intermédiaire de ce canal justement. Après 1948, les nationalisations du régime communiste, Batia fut obligé d'émigrer et le canal tomba dans l'oubli pour de longues années. Après la révolution de velours de 1989, on commença à s'y intéresser de nouveau, et dans les 10 dernières années, des travaux de restauration ont été réalisés pour le rendre de nouveau navigable. Il s'agissait surtout de nettoyer les fonds et de réparer les nombreuses écluses qui se trouvent sur le canal, mais aussi sur la Morava. Aujourd'hui, le canal Batia offre dans les 50 km de voies navigables, en partie sur la Morava, et mène de Zlín à Hodonín. Le tourisme sur le canal Batia n'en est qu'à ses débuts, car il est certes navigable, mais les équipements sur les berges ne commencent qu'à être progressivement édifiés. Les municipalités, les agences de tourisme qui se trouvent dans les localités qui le bordent, s'activent à construire des équipements pour les touristes. Restaurants, petits hôtels, campings, etc. Il faut dire que le côté un peu sauvage des berges du canal Batia représente un peu une autre attraction touristique, car on n'y trouve pas tellement le confort, mais le côté romantique de la vie des anciens mariniers. Les touristes qui décident de descendre le canal Batia sont principalement des amoureux de la nature, ceux qui aiment même passer la nuit à la belle étoile. D'après Roman Prokaska, exploitant une petite société de location d'embarcations à Stara Miesto, il existe encore une catégorie spéciale de touristes qui viennent naviguer sur le canal Batia, les groupes de représentants du sexe masculin qui viennent passer quelques jours tranquilles, loin des soucis de la vie en famille. Ils retrouvent un peu les charmes de leur vie de célibataire. part la possibilité de descendre le canal en canoë, de faire de petites promenades en barque ou sur les embarcations de plaisance, ce qui commence à se développer le plus sur le canal Batia, c'est la location de houseboat, donc de petites embarcations où l'on peut dormir dans une petite chambre, faire la cuisine dans une kitchenette et bronzer sur le pont, tout en savourant les charmes de la nature vierge qui défile devant vous au fil de l'eau. Vous pouvez louer ces houseboats dans deux localités, Spytyaniev dans la région de Zlin et Stare Miesto dans celle de Uherské Hradiště. Pas besoin d'un permis de navigation spécial pour gouverner l'embarcation. Vous recevrez une petite formation avant le départ et des instructions sur le trajet à suivre et comment franchir les nombreuses écluses. La seule condition à remplir est celle d'être âgé de plus de 18 ans, donc d'être majeur. En ce qui concerne l'équipement de l'embarcation, la petite cuisine est équipée d'un réchaud à gaz, de casseroles et de couverts. La petite chambre comprend les lits, mais vous devez prendre votre literie avec vous. Il est donc préférable de choisir un sac de couchage. En effet, vous n'êtes pas obligé de passer la nuit à bord, car il y a beaucoup plus de romantisme, certainement, en descendant à terre et en passant la soirée autour d'un bon feu et en se réveillant au petit matin au bord de l'eau. De nombreux emplacements sont aménagés à cet effet tout au long du canal Batia. Quelle est donc l'offre en ce qui concerne les possibilités de location des houseboats sur le canal Batia? À l'embarcadère de Spytyaniev, on peut louer 4 embarcations, chacune pouvant transporter 4 à 5 personnes. À l'embarcadère de Stare Miesto, il y a 2 embarcations pour un couple seul ou une famille de 2 adultes et 2 enfants. Si vous êtes en voiture dans la région, vous pouvez louer le bateau et laisser votre véhicule sur le parking de la société de location. Vous pouvez aussi prendre des bicyclettes avec vous. Les possibilités de promenade à vélo sont nombreuses dans une région de vignobles et de nombreuses caves à vin et caveaux. Vous n'êtes pas obligé de remettre le bateau à l'endroit où vous avez embarqué. Il suffit de se mettre d'accord avec la société de location et celle-ci s'occupera du voyage de retour. Dernière chose à savoir, si vous avez envie de descendre le canal Batia en bateau, les prix. Ce n'est vraiment pas très coûteux. Un week-end pour 4 personnes du vendredi au dimanche vous reviendra à 150 euros seulement environ. Il faut encore ajouter le prix du carburant, qui est à la charge du touriste. Si vous avez besoin de plus d'informations sur la location d'embarcations sur le canal Batia, connectez-vous à www.lode-houseboaty.cz. Naturellement, vous pouvez louer de plus grosses embarcations pour transporter des groupes. Dans ce cas, vous disposerez d'un équipage qui s'occupera de la navigation et vous pourrez donc vous adonner au plaisir de la vie de marinier sans aucune préoccupation. Bien sûr, cela coûtera un peu plus cher. La descente du canal Batia, donc, une attraction à ne pas manquer lors d'un séjour en Moravie. Et c'est avec ce merveilleux folklore de Moravie que nous terminons notre émission en langue française sur les ondes de Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz. And in